11 novembre 1918.
Grande guerre.
Poilu.
Monument aux morts.
En français et en allemand.
La vie dans les tranchées.
Le centenaire de la Première Guerre mondiale.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons repartir dans le passé grâce au roman « À l'Ouest, rien de nouveau » de Erich Maria Remarque que Chloé va nous présenter.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter l'auteur et son roman ?
Oui, Erich Maria Remarque est né à Osnabrück en 1898 et décédé à Lacarno en 1970. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il en tire la matière d'un roman publié en 1921. À l'Ouest, rien de nouveau. Ce roman est le pseudonyme d'un écrivain allemand qui a combattu dans les tranchées, a connu un succès mondial dès sa parution en 1928 et a été brûlé lors des autodafés nazis en 1933.
Qui est le narrateur et quelle est sa place dans le roman ?
Dans ce roman, le narrateur est un soldat allemand qui combat l'armée française.
Pouvez-vous nous lire quelques extraits du livre ?
Je vais vous lire tout d'abord un extrait qui décrit les ennemis français.
Allez-y, nous vous écoutons.
Au moment où nous reculons, trois visages émergent du sol. Sous l'un des casques apparaît une barbe pointue, toute noire, et deux yeux qui sont fixés droit sur moi. Je lève la main, mais il m'est impossible de lancer ma grenade dans la direction de ces étranges yeux. Pendant un instant de folie, toute la bataille tourbillonne autour de moi et de ses yeux qui, seuls, sont immobiles. Puis, en face de moi, la tête se dresse. Je vois une main, un mouvement. Et aussitôt, ma grenade vole là-dessus. Dans cet extrait, il présente la diabolisation de l'ennemi français. Le narrateur utilise les sujets « nous » et « je ». Pour produire l'effet de peur et que pour nous, les lecteurs puissent plonger dans le roman.
Pouvez-vous nous lire un autre extrait du livre qui montre les sentiments des soldats allemands ?
Oui.
Allez-y.
Nous sommes devenus des animaux dangereux. Nous ne combattons pas, nous nous défendons contre la destruction. Ce n'est pas contre des humains que nous lançons nos grenades. Car à ce moment-là, nous ne sentons qu'une chose. C'est que la mort est là qui nous traque, sous ses mains, sous ses casques. Dans cet extrait, le narrateur anime le sentiment de la peur vers la mort et la destruction. Son attitude explique par la peur, car il ne voit plus d'humain, mais la mort qui le traque.
Et à quoi sont comparés les soldats et que cherche à montrer ce livre ?
Les soldats sont comparés à des animaux dangereux. Ce roman cherche à montrer la cruauté et la douleur physique et morale des soldats pendant la Première Guerre mondiale.
Merci de nous avoir présenté ce roman rempli d'histoires du passé très intéressantes.
Je vous en prie, j'espère que ça vous aura plu et vous incitera à le lire.
Au revoir.
Au revoir.
Bienvenue sur MEI Radio. Nous allons aujourd'hui discuter du centenaire de la Grande Guerre, 14-18. On va parler d'un tableau d'Otto Dix. Alors Emma, peux-tu nous parler de ce peintre ?
Bien sûr, Otto Dix est né en décembre 1891 en Allemagne et mort en janvier 1969. Il a participé à la Première Guerre mondiale comme artilleur.
Un artilleur est bien une personne qui porte les armes à la guerre.
Oui, d'ailleurs, il en ressort profondément choqué. En tant que peintre, il réalise plusieurs tableaux, dont celui-là, qui se nomme « La guerre », datant de 1929 et 1932. Tiens, Imen, peux-tu nous le décrire ?
Oui, c'est un triptyque, ce qui signifie que c'est un tableau en trois parties. En général, les couleurs sont lugubres, sombres. Elles sont ternes. Sur la partie de gauche, le brouillard épais envahit le paysage, qui rend flou le soldat. Ils sont habillés chaudement de marron. munis d'un sac à dos et d'un casque en métal. Ils ont un fusil baïonnette à la main. Ils marchent vers le front. Emma, donne-nous plus de détails.
Eh bien, sur la partie du milieu, en bas, nous voyons une fosse commune. Plus en haut, on observe un massacre. Au premier plan, à droite, se trouve un tas de morts recouverts de sang. Quelques corps sont transpercés de balles. À gauche, il y a un tronc d'arbre carbonisé par les bombardements. Derrière, un survivant équipé d'un masque à gaz. Au-dessus de lui, suspendu, un squelette désignant de son doigt la mort et la barbarie.
C'est terrifiant.
En effet. À l'arrière-plan, une brume recouvre le paysage ravagé par les obus. Enfin, sur la partie de droite, on visualise au premier plan des morts. Derrière, un sauveur transporte un blessé. L'horizon est totalement occupé par les flammes.
C'est un vrai paradoxe, à la fois fascinant et vraiment violent.
Oui, je sais. En parlant de violence, dis-moi, comment peut-on expliquer la violence de masse présente sur ce tableau ?
Déjà, la violence de masse est une violence à la fois physique et morale. Ça touche les soldats, mais aussi les civils. Cette œuvre le montre bien, car on constate que les soldats subissent des blessures, des traumatismes psychologiques qui s'expriment déjà chez le peintre, revenu bouleversé de ce qu'il a vécu pendant la guerre. Mais aussi le manque de confort et d'hygiène exprimé par la fosse commune.
D'accord, on peut donc en conclure que le peintre a voulu exposer les massacres, les ravages, la douleur, la terreur, les extrêmes traumatismes de la guerre.
Tout à fait. Eh bien, sur cette fabuleuse conclusion, merci de nous avoir écoutés.
Retrouvez-nous demain à la même heure. À bientôt et bonne journée à vous.
Bonjour, je me présente, Titouan. Aujourd'hui, Hugo va nous présenter un article.
Bonjour, Titouan.
De quoi précisément allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du centenaire de la guerre. Plus précisément, d'une famille de poilus ayant perdu un membre de leur famille.
Quel document allez-vous nous présenter ?
Je vais vous présenter le texte d'Alice Fernet, du roman Dans la guerre.
En quelle année s'est passée cette histoire ?
Ce document s'est passé d'après la bataille de Verdun, car le père d'Antoine est mort pour la France sur le champ de bataille à Verdun.
Alors, quels sont les sentiments de ce petit par rapport au contexte de la mort de son père ?
Sa mère lui cache toute cette violence de la guerre et les souffrances endurées par tous ses soldats.
Et quels sont les autres membres de cette famille ?
D'après le test, on connaît le prénom du fils, Antoine, de sa mère, Félicité, et de sa grand-mère, Julia.
Alors, comment est racontée la guerre à cet enfant ?
On lui raconte que c'est comme un jeu. Il connaît pas tous les drames de la guerre, même s'il se sert d'un pistolet à couleur pour imiter les soldats.
À quoi lui fait penser cet objet et pourquoi surtout ?
Ce pistolet lui rappelle son père car il lui a été légué.
Est-il curieux sur la mort de son père ? Questionne-t-il sa mère ?
Oui, il est curieux car il questionne beaucoup sa mère.
Est-ce que Antoine est ignorant par rapport à la guerre ?
Oui, car il est encore jeune pour prendre conscience de ses actes et sa mère aussi était ignorante à cause de la censure des lettres.
Je vais vous faire une citation d'un extrait de ce texte. Lorsque tu es né, nous étions les plus heureux du monde. Et c'était la paix en Europe. Ce que lui disait sa mère ne changeait rien à son enthousiasme intérieur. Au contraire, il comprenait encore mieux que ce moment était exceptionnel. S'il avait eu des camarades, il aurait été capable de se vanter. Moi, mon père est mort à Verdun. Il a été décoré. Bien qu'on lui racontât peu de choses, il entendait parler et se faisait des idées. Il passait de grands moments à jouer avec son petit canon en bois que lui avait offert Julia avant de mourir. 3 boulets, bleu, blanc et rouge, dont les couleurs s'usaient sur le sable de la cour, où il était tiré et tiré encore. « Feu !» disait le garçonnet. Quelques idées, ce cadeau pensait, Félicité, mais elle souriait dans sa mélancolie. Quand elle jugeait que sa mère était bien disposée, Antoine venait la questionner. « Dis, maman, qu'est-ce qu'ils font les soldats à la guerre ?» Félicité essayait de répondre, elle ne disait pas à son fils qu'elle n'en savait rien. D'ailleurs, elle ne se l'avouait même pas. Elle ne voulait pas que la haine de la guerre eût l'air de reposer sur une ignorance pareille.
Merci, Tutan, et à bientôt.
Merci, Hugo, et merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs.